Chapitre 7. Objections diverses faites à la théorie de la sélection naturelle. Longévité. Les modifications ne sont pas nécessairement simultanées. Modifications ne rendant en apparence aucun service direct. Développement progressif. Constance plus grande des caractères ayant la moindre importance fonctionnelle. Prétendue incompétence de la sélection naturelle pour expliquer les phases premières de conformations utiles. Causes qui s'opposent à l'acquisition de structures utiles au moyen de la sélection naturelle. Degré de conformation avec changement de fonction. Organes très différents chez les membres d'une même classe, provenant par développement d'une seule et même source. Raison pour refuser de croire à des modifications considérables et subites. Chapitre ne présentant pas de sous-rubrique. Je consacrerai ce chapitre à l'examen des diverses objections qu'on a opposées à mes opinions, ce qui pourra éclaircir quelques discussions antérieures. Mais il serait inutile de les examiner toutes car, dans le nombre, beaucoup émanent d'auteurs qui ne se sont pas même donné la peine de comprendre le sujet. Ainsi, un naturaliste allemand distingué affirme que la partie la plus faible de ma théorie réside dans le fait que je considère tous les êtres organisés comme imparfaits. Or, ce que j'ai dit réellement, c'est qu'ils ne sont pas tous aussi parfaits qu'ils pourraient l'être, relativement à leurs conditions d'existence. Ce qui le prouve, c'est que de nombreuses formes indigènes ont, dans plusieurs parties du monde, cédé la place à des intrus étrangers. Or, les êtres organisés, en admettant même qu'à une époque donnée, ils aient été parfaitement adaptés à leurs conditions d'existence, ne peuvent, lorsque celles-ci changent, conserver les mêmes rapports d'adaptation qu'à condition de changer eux-mêmes. Aussi, personne ne peut contester que les conditions physiques de tous les pays, ainsi que le nombre et les formes des habitants, ont subi des modifications considérables. Un critique a récemment soutenu, en faisant parade d'une grande exactitude mathématique, que la longévité est un grand avantage pour toutes les espèces, de sorte que celui qui croit à la sélection naturelle doit disposer son arbre généalogique de façon à ce que tous les descendants aient une longévité plus grande que leurs ancêtres. Notre critique ne saurait-il concevoir qu'une plante bisannuelle ou une forme animale inférieure pu pénétrer dans un climat froid et y périr chaque hiver, et cependant, en raison d'avantages acquis par la sélection naturelle, survivre d'année en année par ses graines ou par ses œufs. M. E. Ray Lankester a récemment discuté ce sujet, il conclut autant du moins que la complexité excessive de la question lui permet d'en juger, que la longévité est ordinairement en rapport avec le degré qu'occupe chaque espèce dans l'échelle de l'organisation. Et aussi avec la somme de dépenses qu'occasionne tant la reproduction que l'activité générale. Or, ces conditions doivent probablement avoir été largement déterminées par la sélection naturelle. On a conclu de ce que ni les plantes ni les animaux connus en Égypte n'ont éprouvé de changement depuis 3 ou 4 000 ans qu'il en est probablement de même pour tous ceux de toutes les parties du globe. Mais, ainsi que l'a remarqué M. G. H. Lewes, ce mode d'argumentation prouve trop, car les anciennes races domestiques figurées sur les monuments égyptiens, ou qui nous sont parvenues embaumées, ressemblent beaucoup aux races vivantes actuelles, et sont même identiques avec elles. Cependant, tous les naturalistes admettent que ces races ont été produites par les modifications de leur type primitif. Les nombreux animaux qui ne se sont pas modifiés depuis le commencement de la période glaciaire présenteraient un argument incomparablement plus fort en ce qu'ils ont été exposés à de grands changements de climat et ont émigré à de grandes distances. Tandis que, autant que nous pouvons le savoir, les conditions d'existence sont aujourd'hui exactement les mêmes en Égypte qu'elles l'étaient il y a quelques milliers d'années. Le fait que peu ou point de modifications se sont produites depuis la période glaciaire, aurait quelque valeur contre ceux qui croient à une loi innée et nécessaire de développement. Mais il est impuissant contre la doctrine de la sélection naturelle ou de la persistance du plus apte, car celle-ci implique la conservation de toutes les variations et de toutes les différences individuelles avantageuses qui peuvent surgir, ce qui ne peut arriver que dans des circonstances favorables. Braun, le célèbre paléontologiste, en terminant la traduction allemande du présent ouvrage, se demande comment, étant donné le principe de la sélection naturelle, une variété peut vivre côte à côte avec l'espèce parente. Si les deux formes ont pris des habitudes différentes ou se sont adaptées à de nouvelles conditions d'existence, elles peuvent vivre ensemble. Car, si nous excluons d'une part les espèces polymorphes, chez lesquelles la variabilité paraît être d'une nature toute spéciale, et d'autre part les variations simplement temporaires, telles que la taille, l'albinisme, etc., les variétés permanentes habitent généralement, à ce que j'ai pu voir, des stations distinctes, telles que des régions élevées ou basses, sèches ou humides. En outre, dans le cas d'animaux essentiellement errants et se croisant librement, les variétés paraissent être généralement confinées dans des régions distinctes. Braun insiste aussi sur le fait que les espèces distinctes ne diffèrent jamais par des caractères isolés, mais sous beaucoup de rapports. Il se demande comment il se fait que de nombreux points de l'organisme aient été toujours modifiés simultanément par la variation et par la sélection naturelle. Mais rien n'oblige à supposer que toutes les parties d'un individu se soient modifiées simultanément. Les modifications les plus frappantes, adaptées d'une manière parfaite à un usage donné, peuvent, comme nous l'avons précédemment remarqué, être le résultat de variations successives, légères, apparaissant dans une partie puis dans une autre. Mais comme elles se transmettent toutes ensemble, elles nous paraissent s'être simultanément développées. Du reste, la meilleure réponse à faire à cette objection est fournie par les races domestiques, qui ont été principalement modifiées dans un but spécial, au moyen de la sélection opérée par l'homme. Voyez le cheval de trait et le cheval de course, ou le lévrier et le dogue. Toutes leurs charpentes et même leurs caractères intellectuels ont été modifiés, mais si nous pouvions retracer chaque degré successif de leur transformation, ce que nous pouvons faire pour ceux qui ne remontent pas trop haut dans le passé, nous constaterions des améliorations et des modifications légères, affectant tantôt une partie, tantôt une autre, mais pas de changements considérables et simultanés. Même lorsque l'homme n'a appliqué la sélection qu'à un seul caractère, ce dont nos plantes cultivées offrent les meilleurs exemples, on trouve invariablement que si un point spécial, que ce soit la fleur, le fruit ou le feuillage, a subi de grands changements, presque toutes les autres parties ont été aussi le siège de modifications. On peut attribuer ces modifications en partie au principe de la corrélation de croissance, et en partie à ce qu'on a appelé la variation spontanée. Une objection plus sérieuse faite par M. Braun et récemment par M. Broca est que beaucoup de caractères paraissent ne rendre aucun service à leurs possesseurs et ne peuvent pas par conséquent avoir donné prise à la sélection naturelle. Braun cite l'allongement des oreilles et de la queue chez les différentes espèces de lièvres et de souris, les replis compliqués de l'émail dentaire existant chez beaucoup d'animaux, et une multitude de cas analogues. Au point de vue des végétaux, ce sujet a été discuté par Nageli dans un admirable mémoire. Il admet une action importante de la sélection naturelle, mais il insiste sur le fait que les familles de plantes diffèrent surtout par leur caractère morphologique, qui paraissent n'avoir aucune importance pour la prospérité de l'espèce. Il admet par conséquent une tendance innée à un développement progressif et plus complet. Il indique l'arrangement des cellules dans les tissus et des feuilles sur l'axe, comme des cas où la sélection naturelle n'a pu exercer aucune action. On peut y ajouter les divisions numériques des parties de la fleur, la position des ovules, la forme de la graine, lorsqu'elle ne favorise pas sa dissémination, etc. Cette objection est sérieuse. Néanmoins, il faut tout d'abord se montrer fort prudent quand il s'agit de déterminer quelles sont actuellement, ou quelles peuvent avoir été dans le passé, les conformations avantageuses à chaque espèce. En second lieu, il faut toujours songer que lorsqu'une partie se modifie, d'autres se modifient aussi, en raison de causes qu'on entrevoit à peine, telles que l'augmentation ou la diminution de l'afflux de nourriture dans une partie, la pression réciproque, l'influence du développement d'un organe précoce sur un autre qui ne se forme que plus tard, etc. Il y a encore d'autres causes que nous ne comprenons pas, qui provoquent des cas nombreux et mystérieux de corrélation, Pour abréger, on peut grouper ensemble ces influences sous l'expression « loi de la croissance ». En troisième lieu, nous avons à tenir compte de l'action directe et définie de changement dans les conditions d'existence, et aussi de ce qu'on appelle les variations spontanées, sur lesquelles la nature des milieux ne paraît avoir qu'une influence insignifiante. Les variations des bourgeons, telles que l'apparition d'une rose moussue sur un rosier commun ou d'une pêche lisse sur un pêcher ordinaire, offrent de bons exemples de variations spontanées. Mais même dans ces cas, si nous réfléchissons à la puissance de la goutte infinitésimale du poison qui produit le développement de gales complexes, nous ne saurions être bien certains que les variations indiquées ne sont pas l'effet de quelque changement local dans la nature de la sève, résultant de quelques modifications des milieux. Toute différence individuelle légère, aussi bien que les variations plus prononcées, qui surgissent accidentellement, doit avoir une cause. Or, il est presque certain que si cette cause inconnue agissait d'une manière persistante, tous les individus de l'espèce seraient semblablement modifiés. Dans les éditions antérieures de cet ouvrage, je n'ai pas, cela semble maintenant probable, attribué assez de valeur à la fréquence et à l'importance des modifications dues à la variabilité spontanée. Mais il est impossible d'attribuer à cette cause les innombrables conformations parfaitement adaptées aux habitudes vitales de chaque espèce. Je ne puis pas plus croire à cela que je ne puis expliquer par là la forme parfaite du cheval de course ou du lévrier, adaptation qui étonnait tellement les anciens naturalistes, alors que le principe de la sélection par l'homme n'était pas encore bien compris. Il peut être utile de citer quelques exemples à l'appui de quelques-unes des remarques qui précèdent. En ce qui concerne l'inutilité supposée de diverses parties et de différents organes, il est à peine nécessaire de rappeler qu'il existe, même chez les animaux les plus élevés et les mieux connus, des conformations assez développées pour que personne ne mette en doute leur importance. Cependant, leur usage n'a pas été reconnu ou ne l'a été que tout récemment. Braun cite la longueur des oreilles et de la queue chez plusieurs espèces de souris, comme des exemples insignifiants, il est vrai, de différences de conformation sans usage spécial. Or, je signalerai que le docteur Schobel constate dans les oreilles externes de la souris commune un développement extraordinaire des nerfs, de telle sorte que les oreilles servent probablement d'organes tactiles. La longueur des oreilles n'est donc pas sans importance. Nous verrons tout à l'heure que chez quelques espèces, la queue constitue un organe préhensile, très utile. Sa longueur doit donc contribuer à exercer une influence sur son usage. À propos des plantes, je me borne, par suite du mémoire de Nageli, aux remarques suivantes. On admet, je pense, que les fleurs des orchidées présentent une foule de conformations curieuses, qu'on aurait regardées, il y a quelques années, comme de simples différences morphologiques sans fonction spéciale. Or, on sait maintenant qu'elles ont une importance immense pour la fécondation de l'espèce à l'aide des insectes et qu'elles ont probablement été acquises par l'action de la sélection naturelle. Qui, jusque tout récemment, se serait figuré que, chez les plantes dimorphes et trimorphes, les longueurs différentes des étamines et des pistils, ainsi que leur arrangement, pouvaient avoir aucune utilité? Nous savons maintenant qu'elles en ont une considérable. Chez certains groupes entiers de plantes, les ovules sont dressés. Chez d'autres, ils sont retombants. Or, dans un même ovaire de certaines plantes, un ovule occupe la première position et un second la deuxième. Ces positions paraissent d'abord purement morphologiques ou sans signification physiologique. Mais le docteur Hooker m'apprend que, dans un même ovaire, il y a fécondation des ovules supérieurs seuls dans quelques cas et des ovules inférieurs dans d'autres. Il suppose que le fait dépend probablement de la direction dans laquelle les tubes polliniques pénètrent dans l'ovaire. La position des ovules, s'il en est ainsi, même lorsque l'un est redressé et l'autre retombant dans un même ovaire, résulterait de la sélection de toute déviation légère dans leur position, favorable à leur fécondation et à la production de graines. Il y a des plantes appartenant à des ordres distincts, qui produisent habituellement des fleurs de deux sortes, les unes ouvertes, conformation ordinaire, les autres fermées et imparfaites. Ces deux espèces de fleurs diffèrent d'une manière étonnante. Elles peuvent cependant passer graduellement de l'une à l'autre sur la même plante. Les fleurs ouvertes ordinaires, pouvant s'entrecroiser, sont assurées des bénéfices certains résultant de cette circonstance. Les fleurs fermées et incomplètes ont toutefois une très haute importance, qui se traduit par la production d'une grande quantité de graines et une dépense de pollen excessivement minime. Comme nous venons de le dire, la conformation des deux espèces de fleurs diffère beaucoup. Chez les fleurs imparfaites, les pétales ne consistent presque toujours qu'en simples rudiments, et les grains de pollen sont réduits en diamètre. Chez l'Ononis columnae, 5 des étamines alternantes sont rudimentaires, état qu'on observe aussi sur 3 étamines de quelques espèces de viola, tandis que les deux autres, malgré leur petitesse, conservent leur fonction propre. Sur 30 fleurs closes d'une violette indienne, dont le nom m'est resté inconnu, les plantes n'ayant jamais chez moi produit de fleurs complètes. Les sépales, chez 6, au lieu de se trouver au nombre normal de 5, sont réduits à 3. Dans une section des Malpighiaceae, les fleurs closes, d'après A. de Jussieu, sont encore plus modifiées, car les 5 étamines placées en face des sépales sont toutes atrophiées. Une 6e étamine, située devant un pétale, étant seule développée. Cette étamine n'existe pas dans les fleurs ordinaires des espèces chez lesquelles le style est atrophié et les ovaires réduits de 2 à 3. Maintenant, bien que la sélection naturelle puisse avoir empêché l'épanouissement de quelques fleurs et réduit la quantité de pollen devenue aussi superflue quand il est enfermé dans l'enveloppe florale, il est probable qu'elle n'a contribué que fort peu aux modifications spéciales précitées, mais que ces modifications résultent des lois de la croissance, y compris l'inactivité fonctionnelle de certaines parties pendant les progrès de la diminution du pollen et de l'occlusion des fleurs. Il est si important de bien apprécier les effets des lois de la croissance que je crois nécessaire de citer quelques exemples d'un autre genre. Ainsi, les différences que provoquent dans la même partie ou dans le même organe des différences de situation relative sur la même plante. Chez le châtaignier d'Espagne et chez certains pins, d'après Sacht, les angles de divergence des feuilles diffèrent suivant que les branches qui les portent sont horizontales ou verticales. Chez la rue commune et chez quelques autres plantes, une fleur, ordinairement la fleur centrale ou la fleur terminale, s'ouvre la première et présente 5 sépales et pétales et 5 divisions dans l'ovaire, tandis que toutes les autres fleurs de la plante sont tétramères. Chez la doxa anglais, la fleur la plus élevée a ordinairement 2 lobes au calice et les autres groupes sont tétramères, tandis que les fleurs qui l'entourent ont 3 lobes au calice et les autres organes sont pentamères. Chez beaucoup de composés et d'ombellifères et d'autres plantes, les corolles des fleurs placées à la circonférence sont bien plus développées que celles des fleurs placées au centre, ce qui paraît souvent lié à l'atrophie des organes reproducteurs. Il est un fait plus curieux, déjà signalé, c'est qu'on peut remarquer des différences dans la forme, dans la couleur et dans les autres caractères des graines de la périphérie et de celles du centre. Chez les cartamus et autres composés, les graines centrales porte seule une aigrette. Chez les Hyoseris, la même fleur produit 3 graines de formes différentes. Chez certaines ombellifères, selon Tausch, les graines extérieures sont orthospermes et la graine centrale chélosperme, caractère que De Candolle considérait, chez d'autres espèces, comme ayant une importance systématique des plus grandes. Le professeur Brown mentionne un genre de fumariacée chez lequel les fleurs portent, sur la partie inférieure de l'épi, de petites noisettes ovales, à côte, contenant une graine, et sur la portion supérieure, des siliques lancéolées, bivalves, renfermant 2 graines. La sélection naturelle, autant toutefois que nous pouvons en juger, n'a pu jouer aucun rôle, ou n'a joué qu'un rôle insignifiant dans ces divers cas, à l'exception du développement complet des fleurons de la périphérie qui sont utiles pour rendre la plante apparente et pour attirer les insectes. Toutes ces modifications résulte de la situation relative et de l'action réciproque des organes. Or, on ne peut mettre en doute que, si toutes les fleurs et toutes les feuilles de la même plante avaient été soumises aux mêmes conditions externes et internes,
comme le sont les feuilles et les fleurs,
dans certaines positions, toutes auraient été modifiées de la même manière. Nous observons, dans beaucoup d'autres cas, des modifications de structure, considérées par les botanistes comme ayant la plus haute importance, qui n'affectent que quelques fleurs de la plante, ou qui se manifestent sur des plantes distinctes, croissant ensemble dans les mêmes conditions. Ces variations, n'ayant aucune apparence d'utilité pour la plante, ne peuvent pas avoir subi l'influence de la sélection naturelle. La cause nous en est entièrement inconnue. Nous ne pouvons même pas les attribuer, comme celle de la dernière classe, à une action peu éloignée, telle que la position relative. En voici quelques exemples. Il est si fréquent d'observer sur une même plante des fleurs tétramères, pentamères, etc., que je n'ai pas besoin de m'appesantir sur ce point. Mais comme les variations numériques sont comparativement rares lorsque les organes sont eux-mêmes en petit nombre, je puis ajouter que, d'après De Candolle, les fleurs du papaver Bracteatum portent 2 sépales et 4 pétales, type commun chez le pavot, ou 3 sépales et 6 pétales. La manière dont ces derniers sont pliés dans le bouton est un caractère morphologique très constant dans la plupart des groupes. Mais le professeur Asa Gray constate que, chez quelques espèces de Mimulus, l'estivation est presque aussi fréquemment celle des Rhinanthidés que celle des Antirhinidés, à la dernière desquelles le genre précité appartient. Auguste Saint-Hilaire indique les cas suivants. Le genre Zantoxylon appartient à une division des Rutacées à un seul ovaire. On trouve cependant chez quelques espèces plusieurs fleurs sur la même plante, et même sur une seule panicule, ayant soit un, soit 2 ovaires.
Chez l'Helianthemum,
la capsule a été décrite comme uniloculaire ou triloculaire.
Chez l'Helianthemum mutabile,
une lame plus ou moins large s'étend entre le péricarpe et le placenta. Chez les fleurs de la Saponaria officinalis, le docteur Masters a observé des cas de placentation libre tant marginale que centrale. Saint-Hilaire a rencontré à la limite extrême méridionale de la région qu'occupe la Gomphia oleale formis 2 formes dont il ne mit pas d'abord en doute la spécificité distincte. Mais, les trouvant ultérieurement sur un même arbuste, il dut ajouter « Voilà donc, dans un même individu, des loges et un style qui se rattachent tantôt à un axe vertical et tantôt à un gynobase. » Nous voyons, d'après ce qui précède, qu'on peut attribuer, indépendamment de la sélection naturelle, aux lois de la croissance et à l'action réciproque des parties, un grand nombre de modifications morphologiques chez les plantes. Mais peut-on dire que, dans les cas où ces variations sont si fortement prononcées, on ait devant soi des plantes tendant à un état de développement plus élevé,
selon la doctrine de Nageli,
qui croit à une tendance innée vers la perfection ou vers un perfectionnement progressif? Au contraire, le simple fait que les parties en question diffèrent et varient beaucoup chez une plante quelconque ne doit-il pas nous porter à conclure que ces modifications ont fort peu d'importance pour elles, bien qu'elles puissent en avoir une très considérable pour nous en ce qui concerne nos classifications? On ne saurait dire que l'acquisition d'une partie inutile fait monter un organisme dans l'échelle naturelle, car dans le cas des fleurs closes et imparfaites que nous avons décrites plus haut, si l'on invoque un principe nouveau, ce serait un principe de nature rétrograde plutôt que progressive. Or, il doit en être de même chez beaucoup d'animaux parasites et dégénérés. Nous ignorons la cause déterminante des modifications précitées. Mais si cette cause inconnue devait agir uniformément pendant un laps de temps très long, nous pouvons penser que les résultats seraient à peu près uniformes. Dans ce cas, tous les individus de l'espèce seraient modifiés de la même manière. Les caractères précités n'ayant aucune importance pour la prospérité de l'espèce, la sélection naturelle n'a dû ni accumuler ni augmenter les variations légères accidentelles. Une conformation qui s'est développée par une sélection de longue durée devient ordinairement variable lorsque cesse l'utilité qu'elle avait pour l'espèce, comme nous le voyons par les organes rudimentaires, la sélection naturelle cessant alors d'agir sur ces organes. Mais lorsque des modifications sans importance pour la prospérité de l'espèce ont été produites par la nature de l'organisme et des conditions, elles peuvent se transmettre et paraissent souvent avoir été transmises à peu près dans le même état à une nombreuse descendance, d'ailleurs autrement modifiée. Il ne peut avoir été très important pour la plupart des mammifères, des oiseaux ou des reptiles d'être couverts de poils, de plumes ou d'écailles. Et cependant, les poils ont été transmis à la presque totalité des mammifères, les plumes à tous les oiseaux et les écailles à tous les vrais reptiles. Une conformation, quelle qu'elle puisse être, commune à de nombreuses formes voisines, a été considérée par nous comme ayant une importance systématique immense et est, en conséquence, souvent estimée comme ayant une importance vitale essentielle pour l'espèce. Je suis donc disposé à croire que les différences morphologiques que nous regardons comme importantes, telles que l'arrangement des feuilles, les divisions de la fleur ou de l'ovaire, la position des ovules, etc., ont souvent apparu dans l'origine comme des variations flottantes, devenues tôt ou tard constantes, en raison de la nature de l'organisme et des conditions ambiantes, ainsi que par le croisement d'individus distincts mais non pas en vertu de la sélection naturelle. L'action de la sélection ne peut, en effet, avoir ni réglé ni accumulé les légères variations des caractères morphologiques qui n'affectent en rien la prospérité de l'espèce. Nous arrivons ainsi à ce singulier résultat que les caractères ayant la plus grande importance pour le systématiste n'en ont qu'une très légère au point de vue vital pour l'espèce. Mais cette proposition est loin d'être aussi paradoxale qu'elle peut le paraître à première vue, ainsi que nous le verrons plus loin en traitant du principe génétique de la classification. Bien que nous n'ayons aucune preuve certaine de l'existence d'une tendance innée des êtres organisés vers un développement progressif, ce progrès résulte nécessairement de l'action continue de la sélection naturelle, comme j'ai cherché à le démontrer dans le quatrième chapitre. La meilleure définition qu'on ait jamais donnée de l'élévation à un degré plus élevé des types de l'organisation repose sur le degré de spécialisation ou de différenciation que les organes ont atteint. Or, cette division du travail paraît être le but vers lequel tend la sélection naturelle, car les parties ou organes sont alors mises à même d'accomplir leurs diverses fonctions d'une manière toujours plus efficace.